toutes et à tous, Pascal Sim pour ce journal d'ONU Info. Au menu de ce journal, l'ONU commémore la journée mondiale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme. OCHA revient sur la situation humanitaire dans deux pays d'Afrique centrale, la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. Et en dossier, notre reportage dans l'extrême nord du Cameroun, où le PNUD aide la communauté et les jeunes à recréer la paix et le développement. Les Nations Unies ont célébré mercredi la Journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme. L'occasion pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, de demander à la communauté internationale d'exprimer sa solidarité avec ses victimes et de leur montrer qu'elles ne sont pas seules. Jérôme Bernard nous en dit plus.
Antonio Guterres a appelé à procurer aux victimes et aux rescapés du terrorisme un soutien pluridimensionnel à long terme, notamment grâce à des partenariats avec les gouvernements et la société civile. Ce soutien leur permettrait de guérir, de se rétablir, de reconstruire leur vie et d'aider les autres. Le secrétaire général a rappelé que l'ONU a aidé à rassembler et à faire entendre les voix des victimes grâce aux activités du Bureau de lutte contre le terrorisme. La récente adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies d'une résolution consacrée aux victimes et la création d'un groupe des amis des victimes du terrorisme sont de nouvelles initiatives destinées à élargir et renforcer cet appui. L'ONU va aussi organiser l'an prochain le premier congrès mondial des victimes du terrorisme. Le secrétaire général a inauguré aujourd'hui au siège de l'ONU à New York une exposition photo intitulée « Survivre au terrorisme, le pouvoir de la résilience ». Antonio Guterres a rencontré des survivants d'attaques terroristes au début de l'année et il s'est dit profondément ému par leur courage et leur résilience. Leur message était clair et simple. Les personnes et les communautés doivent se rapprocher pour devenir plus fortes. Faisons de ces expériences douloureuses des forces de changement puissantes et positives. C'est une leçon pour nous tous, a-t-il déclaré.
Suite de notre série sur l'action humanitaire de l'ONU dans le monde, avec un focus aujourd'hui sur deux pays d'Afrique centrale. Tout d'abord, la République démocratique du Congo, qui est confrontée à un conflit depuis plus de 20 ans, qui fait de ce pays le plus vaste de l'Afrique subsaharienne l'un des plus grands théâtres d'opérations humanitaires. David McLachlan-Carr est le coordinateur humanitaire en RDC. Il rappelle le rôle des travailleurs humanitaires dans le pays et celui que doit jouer le peuple et le gouvernement congolais.
Aujourd'hui, la RDC est le plus grand théâtre d'opération pour certaines agences des Nations Unies, ONG et des bailleurs des fonds. Vous le savez, c'est aussi la plus grande mission de maintien de paix au monde. Les organisations humanitaires seront toujours en mesure d'apporter médicaments, eau, nourriture, bâches, cartables, semences aux personnes affectées. Mais elles ne pourront pas, car elles n'ont pas cette vocation, résoudre les racines profondes de la crise. Elles peuvent contribuer à pacifier les rancœurs, mais elles ne pourront pas imposer le vivre ensemble, la cohésion sociale, si les populations ne s'y investissent pas. Nous sommes disposés à jouer pleinement notre rôle d'urgentiste. Mais de l'autre côté, en me tournant vers mes partenaires du gouvernement, vous avez la lourde tâche de continuer à travailler sur cette cohésion sociale, socle préalable de paix et de développement.
Et après la RDC, nous nous intéressons à l'aide humanitaire en République centrafricaine, un autre pays d'Afrique centrale confronté à une forte instabilité préoccupante depuis plus de 5 ans. François Batalingaya est le chef du bureau de la coordination de l'aide humanitaire des Nations Unies en RCA. Au micro de notre radio partenaire Guira FM, il souligne les nombreux défis sanitaires à relever, notamment dans la lutte contre Ebola, présente en RDC voisine, et contre la polio. Il rappelle surtout la situation délicate qui prévaut en RCA.
La situation humanitaire en RCA aujourd'hui est très inquiétante du fait que un centrafricain sur cinq est en situation de déplacement. Un peu moins de 600 000 personnes se soient réfugiées et aussi un nombre aussi important est déplacé interne. Et en plus, nous avons un peu moins de 3 millions de personnes qui ont besoin d'assistance humanitaire cette année. Ça représente environ 63% de la population de RCA qui a besoin d'assistance humanitaire en 2019. Je voudrais ajouter que environ 500 000 personnes ici en RCA se trouvent en situation d'insécurité alimentaire sévère. Et ces personnes se trouvent surtout dans les préfectures du Hombomou, Mbomou et la Basse-Kotto. Mais n'oublions pas une autre deuxième catégorie de personnes qui se trouvent dans les cinq préfectures de la Haute-Kotto, Louaka, Nanagribizi, Ouam et Ouampende. Pour l'année 2019, la réponse humanitaire requiert environ 430 millions de dollars pour répondre à tous les besoins de la population, d'environ 1,6 million de personnes.
La population de l'extrême nord du Cameroun a subi les violences du groupe terroriste Boko Haram qui sévit sur l'ensemble de la région du lac Tchad. ONU Info s'est rendue dans cette région pour voir comment les communautés locales et les populations déplacées, et notamment les jeunes, recréent les conditions de la paix et du développement dans le domaine de l'agriculture avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement. Daniel Dickinson a rencontré l'un de ces jeunes impliqués dans cette solidarité communautaire dans l'extrême nord du Cameroun.
Oui, je suis Ibrahim Djagra. Je suis le président régional du Conseil national de la jeunesse pour l'extrême nord et gestionnaire du COK, le centre d'écoute, d'orientation et d'accompagnement des communautés au niveau de la commune de Mora, qui a été mis sur pied avec l'appui du PNUD, qui est une structure qui coordonne vraiment les activités communautaires au sein de la commune de Mora aujourd'hui. Comme vous le voyez dans toute la ferme, le champ, vous voyez, il y a les oignons, il y a le maïs, il y a les cannes à sucre, il y a les tomates et il y a les carottes. C'est un complexe des produits végétaux, c'est un complexe des légumes, c'est un complexe de tout ce qu'on peut trouver dans un champ communautaire. Donc c'est à l'image de la communauté qui travaille dans ce champ. C'est vraiment une oasis verte et c'est comme l'or vert comme on dit aujourd'hui. Parce que il y a 3-4 ans, ce n'était pas possible d'accéder à ce genre à cette place parce que c'était un peu considéré comme Boko Haram Land. Et jusqu'ici, là où nous sommes, ce n'était pas possible parce qu'il y avait un camp militaire sous l'arbre-ci que vous voyez. Et ici à côté, il y avait un camp militaire pour la sécurité. Mais aujourd'hui, cet espace qui était considéré comme un champ de bataille de Boko Haram, c'est aujourd'hui transformé en une initiative entrepreneuriale, c'est transformé en un champ. Donc c'est un champ d'espoir, c'est un champ de vision, c'est un champ communautaire qui dépasse même le degré de la communauté, qui va au-delà de la communauté.
Et qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui?
Oh, aujourd'hui, comme vous le voyez, on a à côté nos frères IDP qui sont là. De l'autre côté, on a les communautés hôtes qui ont aussi accueilli, qui travaillent ensemble. Ils travaillent ensemble, ils ont mis sur pied ensemble un champ communautaire pour développer leur initiative entrepreneuriale, pour développer leur champ. Et la ferme que vous voyez, c'est loin d'être une ferme communautaire, mais c'est une ferme d'espoir, c'est un champ d'espoir. Et je pense qu'avec l'accompagnement des partenaires au développement, ils pourront développer ce genre d'initiative et aller au-delà même de ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui.
Et pourquoi est-ce que c'est important pour les déplacés et les inhabitants d'ici de travailler ensemble?
Oui, c'est très important pour les déplacés internes et la communauté haute de travailler ensemble pour renforcer la cohésion sociale. Vous savez que les déplacés, eux, c'est des personnes qui ont abandonné tout chez eux. Ils ont fui, ils ont abandonné leurs richesses, leurs terres et autres. Quand ils sont arrivés ici, il y a beaucoup de pression sur les ressources naturelles. Alors, ils se disent qu'en travaillant ensemble, on met la force ensemble et on produit beaucoup ensemble. Donc, c'est pour cela que ça renforce davantage ce lien de collaboration et cette cohésion sociale entre cette population haute et ces déplacés qui sont aujourd'hui considérés pas comme des frères, mais comme un même sang.
Et ça marche?
Oui, ça marche. Vous voyez, quand vous voyez l'initiative aujourd'hui, il y a, dans le groupe, il y a presque 11 personnes IDPs. Et il y a presque 15 populations hôtes. Ça renforce déjà ce lien de collaboration, ce lien de fraternité qui existe entre eux. Et ça marche. Et il y a peut-être un mois et demi, quand ils ont fait leur première récolte, ça les a donné presque 3 à 4 000 dollars, je pense. Et les bénéfices, ils se sont partagés entre eux. Ils ont mis le capital à côté. Et ça a permis aux IDP d'envoyer leurs enfants à l'école et même aux populations hôtes d'envoyer leurs enfants à l'école, de prendre en compte les besoins de santé, d'éducation de leurs enfants. Donc ça, c'est aussi autant d'opportunités.
Fin de ce journal d'ONU Info, à retrouver sur notre page Internet et sur nos comptes Twitter, Facebook et SoundCloud. Merci de votre fidélité et à très bientôt.